il y a tellement de textes qui sont lus en rapidement, on les connaît, on les traverse rapidement, on ne s'arrête plus du tout à cela, ce qui fait que on est un petit peu, il y a des choses que sur lesquelles que l'on on ignore, que sur lesquelles on passe et que qui serait pourtant bien nécessaire à ça va, voilà, bien nécessaire de comprendre. Agir en accord avec la parole, et je vous invite à une réflexion sur le deux verbes qui se trouvent dans la Genèse. C'est pam, voilà. Je vais parler en théologien. Je vous parlerai peut-être aussi un petit peu en hébreu. Mais j'essaierai d'être compréhensible pour les uns et pour les autres. La troisième ordonnance créationnelle. Alors, certainement que vous n'avez jamais entendu parler de ça, si ce n'est ceux qui ont lu Calvin, qui, quelque part, savent que Calvin avait pensé que dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, il y avait sept ordonnances, sept choses qu'il fallait faire et que l'humanité avait à accomplir. Je prendrai la troisième ordonnance créationnelle. Je la lirai dans la Bible, à la Nouvelle Bible Second. C'est dans le Genèse chapitre 2, verset 15. Où il nous est dit ceci: le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver et garder seront les deux verbes sur lesquels nous allons nous arrêter quelque peu. Le premier verbe, cultiver. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous, nous vivons dans des appartements et on ne cultive plus forcément les petits pois et les carottes. La culture cultivée, bon, bien sûr, il y a encore des agriculteurs en Europe. Ils ont tendance à diminuer à l'heure actuelle. Hein. C'est une chose que on laisse de côté. Donc, il y a des gens qui essayent de remettre à l'ordre du jour l'écologie. Ce n'est pas de cela que je vais parler. Ça ne sera pas une prédication sur l'écologie. Ça sera une prédication sur le verbe avad, qui veut dire cultiver. Mais il y a une sémantique assez large. Il y a plusieurs sens dans ce verbe avad. Et il y a, de ce verbe avad, il y a un prénom. Je ne crois pas qu'il y en ait dans nos assemblées, mais il y a un prénom dans la Bible qui en est issu et qui est quand même quelqu'un d'assez étonnant, puisque, en fait, il provient d'un remariage. Alors, je vous donne les indices. Qui s'est remarié et qui a donné naissance à un fils. Alors, en fait, c'est Ruth et Boaz qui ont donné naissance à Obed. Et Obed, c'est la même racine verbale que Avad. Donc, c'est le fils de Ruth et de Boaz. Travailler, cultiver, labourer. Vous êtes toujours d'accord avec ça, hein ? Un autre sens qui est issu de ce verbe avad, en fait, qui est-ce qui cultivait ? C'était les esclaves qui travaillaient pour des maîtres. Et donc, un des verbes, le verbe avad, est arrivé à être traduit par servir. Servir, donc, c'est travailler pour un autre, c'est travailler pour quelqu'un auquel on est attaché. Et alors, de là, on peut en arriver à quelque chose d'assez étonnant, à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. C'est en fait compte servir sous la tente d'assignation. C'est quoi la tente d'assignation ? C'est le tabernacle. C'est la tente qui était dans le désert. Et nous trouvons ça dans Nombre, chapitre 4, verset 37. Tels sont ceux qui furent recensés parmi les clans de Kehath, tous ceux qui servaient dans la tente de la rencontre. Donc, servir, c'est aussi rendre un culte, culte au Seigneur, mais cela pourrait être aussi autre chose, hein, on le trouve dans Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Ce qui veut dire qu'en fait, nous pouvons aussi utiliser le mot avad pour servir les idoles anciennes ou moderne. Dans les idoles en moderne, vous avez quoi ? C'est pas tellement moderne, hein, parce que du temps de Jésus, déjà, c'était une idole, et une idole bien particulière, qui était donnée par un nom bien particulier. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cultiver, avad, c'est travailler, c'est servir, c'est rendre un culte. Donc, et c'est là où je voudrais arriver, tout travail est un service. Tout travail est un service et un service pour Dieu et un service pour sa gloire. Peu importe le travail que nous faisons. Vous allez me dire, oui, bon, ben, toi, tu es retraité, d'accord, ok, ça fait 13 ans. Non, oui, 13 ans que je suis retraité. Mais j'ai toujours gardé cette dimension depuis que je l'ai étudié dans la Bible. Tout travail est un service pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que je fais. Et je pense que l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul, disait à peu près la même chose que moi. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour un être humain. Je me souviens, moi aussi j'étais jeune, hein, mais j'ai encore la mémoire du temps de ma jeunesse, lorsque j'avais 7-8 ans, ma sœur cadette était souvent de travail à la vaisselle et elle me disait « Jean-Marie, vaisselle !» Et donc, je m'accomplissais, mais avec... Bon, c'était pas marrant, quoi. Hein, j'aimais pas faire la vaisselle. C'était pas mon truc. Mais quand on arrivait aux casseroles, brutalement, j'avais comme ça des poussées intestinales qui faisaient que il fallait que je m'éclipse. Et le temps que je m'éclipse, eh ben la vaisselle était terminée. Tout travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Ce n'est pas la nature du travail qui pose problème, c'est le but. Si dans mon travail, j'ai l'idée que c'est ennuyeux, problématique, difficile, je vais travailler en tirant les pieds, en disant « mais c'est toujours la même chose, et je fais encore la même chose, et quand je voudrais bien faire autre chose, mais je ne peux pas ». Maintenant, si le but devient différent, eh bien peut-être que mon travail sera différent. Je me souviens d'un temps, moi j'ai bien aimé hein, votre louange, et j'ai bien aimé le nombre de musiciens et de chanteurs, je suis ravi. Et je remercie le Seigneur de vous avoir donné des musiciens et des chanteurs. Mais je me souviens d'un temps, lorsque j'étais pasteur dans une église, dans une autre région que la région de Charleroi, il y avait deux annonces qui ne recevaient pas du tout la même réponse enthousiaste. Il y avait celle que je pouvais faire à la fin du mois d'août en disant que l'on allait reprendre les cultes à partir du mois de septembre et que dès lors il serait nécessaire que le groupe de louanges se mette en place. Et quand j'avais dit ça, le jour même, j'avais au moins 3 ou 4 personnes qui me disaient « Le Seigneur m'a montré que je devais jouer, ou que je devais chanter dans le groupe de louanges. » Mais il y en avait tellement qu'en fait, compte, on ne savait pas tous les mettre. Il aurait fallu faire une mezzanine, peut-être, mais ce n'était pas le cas. Tellement, il y avait des gens qui avaient cette conscience qu'il fallait qu'il joue ou qu'il chante. Par contre, quand arrivait le mois de juin, nous savions que Jean-Claude et Jacqueline partaient aux États-Unis voir leur fils. Ils étaient absents pour le mois. Et dès lors, je prévenais l'Assemblée que Jean-Claude et Jacqueline étaient absents pour le mois de juillet de juin, pardon, et que l'on cherchait donc quelqu'un pour nettoyer la salle et pour nettoyer les sanitaires. Et je savais qu'à l'issue du culte, je n'aurais personne. Pourquoi est-ce qu'en fait, quand on se précipite, même si on chante faux, dans une tâche, et pour l'autre, on ne le fait pas? Alors tout ça, vous me direz, oui, mais c'est parce que nous sommes victimes de la culture grecque, qui depuis Platon et Socrate, Socrate et Platon, dit que tout travail ne peut être qu'intellectuel. Tout ce qui n'est pas intellectuel est laissé à tous ceux qui ne savent rien faire. Nous sommes toujours victimes de cette culture et ça nous pose un sacré problème. Sacré problème parce que, en fin de compte, on n'est pas la même adéquation que la Bible, qui nous dit tout travail, peu importe quel travail. Donc vous me direz, oui, mais toi, tu étais pasteur, donc tu étais dans les intellectuels. Mais en fait, quand on faisait 4 à 5 camps par année, et chaque fois à la fin du camp, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'annonce qui fait les sanitaires. Et la plupart du temps, moi, je m'inscrivais le premier parce que je savais que personne ne s'inscrirait volontairement pour faire les sanitaires. Donc, j'ai de multiples photos, que ça soit à Genval ou autre part, en train de faire les sanitaires. Une petite chose que je voudrais souligner, je ne sais pas parler arabe. Mais il y a un mot qui vient de la même racine. Et sémitique, que Abad. Je ne sais pas comment on prononce. Google me l'a dit, mais je ne l'ai pas retenu. Il y a Eboud, si vous voulez. Vous savez, c'est l'arabe, et vous savez ce que veut dire ce mot? Donc, c'est la même racine sémantique. Eh bien, ça veut dire adorer. Frères et sœurs, il y a une chose, c'est que si j'ai bien compris ce que dit l'épître de Pierre, lorsqu'il dit que nous avons tous, chacun a reçu un don, un charisme. Et l'invitation de Pierre, c'est de dire, mettez-le au service de chacun. Nous sommes donc invités à nous poser la question aujourd'hui sur cette notion de travail comme service. Que disons-nous lorsque nous disons que nous parlons de la pénibilité du travail? Alors c'est vrai que l'Écriture nous parle et nous dit que le travail deviendra pénible. Et ça, dès Genèse chapitre 3. Mais la pénibilité du travail, moi, Jean-Marie Thomas, 78 ans à l'heure actuelle, et j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Eh bien, on travaillait quand même dans des conditions un peu différentes. Et je n'ai jamais estimé que le travail était vraiment pénible. Oui, il y en avait qui étaient plus pénibles que les autres. Mais en fait, compte, je crois qu'aussi, dans notre façon de voir les choses aujourd'hui, c'est un petit peu vite dit que de parler de pénibilité. Alors, c'est vrai qu'il y a des travaux et un travail qui est harassant. Lorsque notre travail semble se répéter constamment, las de le faire, semble-t-il, c'est toujours la même chose. Et donc, ce que je vous invite à reconsidérer, avons-nous à cœur le but du travail, de notre travail, que ça soit dans l'Église, que ça soit en dehors de l'Église, que ça soit à la maison. Il nous faudrait quand même considérer pour qui le faisons-nous. Quand je faisais mes sanitaires, moi, je me disais toujours, je fais les sanitaires pour le Seigneur. Le frère ou la sœur qui utilisera les sanitaires, je veux qu'il soit comblé et qu'il soit heureux de pouvoir utiliser ces sanitaires. Si vous voulez voir des sanitaires, et venez avec moi à Madagascar, vous aurez aussi d'autres visions des sanitaires. Mais je pense qu'il est important que nous puissions avoir pour qui le faisons-nous, pourquoi le faisons-nous, pour la gloire de Dieu. Et cela peut ramener, en fin de compte, la joie au sein de nos motivations. Un jour, nous serons à la retraite. Un jour, nous ne ferons plus rien. Vous croyez ? Eh bien, en fait, si je considère une chose, c'est que si je lis bien Apocalypse 22, on est quasiment à la fin de la Bible, hein, vous êtes d'accord ? Et le verset 3 dit ceci, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Mon service ne terminera jamais. Servons le Seigneur dans toutes les situations, dans tous les moments que nous vivons. » Le deuxième verbe que je voudrais sur lequel je voudrais m'arrêter un moment, c'est le verbe chamar. Alors, chamar veut dire tenir, avoir la charge de. Ça veut dire aussi protéger, sauver la vie. En quelque sorte, c'est veiller, c'est être veilleur, c'est prendre soin. Et si je vous posais la question, dans quel passage de la Bible va-t-on redire et va-t-on parler de cette protection, 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 protection ? Est-ce que vous voyez un passage de la Bible où cela devient quasiment une ritournelle ? Non point. Eh bien, c'est le psaume 121. Psaume 121 qui dit ceci, « Chant des montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient du Seigneur qui fait les cieux et la terre. » Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est à ton ombre à ta droite, et le jour et le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et à toujours. Combien de fois garder ? 6 fois. 6 fois où le Seigneur dit qu'il est le gardien. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous sommes, Dieu prend, il dépose. Il dépose l'homme, enfin l'humain, dans le jardin des délices pour le cultiver, labourer, servir, mais c'est un travail qui peut être pénible aussi, Genèse 3:17, pour le garder, prendre soin et veiller. La deuxième utilisation du verbe chamar se trouve dans Genèse 3:24. L'Écriture nous dit ceci, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Et de nouveau, on a cette notion de garder, mais là, dans le sens d'interdire, de préserver. Troisième utilisation du verbe chamar, en Genèse chapitre 4, verset 9. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Une réponse à Dieu sous forme de question. Que faut-il en penser ? Est-ce que Caïn, qui est le meurtrier, est-ce qu'il sait ou ne sait pas où est Abel ? Vous dites oui ? Eh bien, moi, je dis non. Et je peux m'expliquer ? En fait, compte, Caïn est le meurtrier. Mais c'est le premier meurtre. Abel est le premier qui est défunt. Où est-il ? Caïn ne le sait pas. Ça, c'est clair. La seule chose, c'est que s'il ne sait pas ce qu'est devenu Abel, il sait qu'en fait compte, il est et il était le gardien de son frère. Suis-je le gardien de mon frère ? Adam et Ève avaient 2 fils, Caïn et Abel. L'Écriture, au chapitre 4, versets 1 et 2, dit « De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Qui veille sur qui ? Alors, Abel, que faisait-il ? Que faisait-il, Abel ? Il était le berger. Donc, il gardait des moutons. Caïn, lui, était un cultivateur. Et là, il y a une chose qui est quand même étonnante. Genèse 4. Nous avons cultivé et gardé. Caïn est le cultivateur et Abel est le gardien. Et dès Genèse 4, on a déjà déchiré l'ordonnance créationnelle, elle n'est déjà plus respectée. L'un est un et l'autre est l'autre. Suis-je le gardien ? La façon d'en sortir de Caïn, en fait, à qui fait-elle penser ? Qui d'autre aurait pu faire ou pu dire comme Caïn ? Il n'y en a pas des masses avant lui. Qui ? Tel père, tel fils. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » En fait, que dit Adam ? Si tu ne n'avais pas mis à côté de moi une femme, je n'aurais pas mangé du fruit. Donc, le problème, c'est toi, et c'est de ta faute qu'en fin de compte, j'ai péché. Et Caïn va faire la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai un frère ? Ils retournent l'un et l'autre la faute commise contre le Seigneur. Est-ce qu'il faut leur jeter la pierre ? Bien souvent, nous faisons exactement la même chose. Garder, c'est veiller. Mais garder, ça veut dire aussi, c'est une question de service. C'est quelque chose qui se fait de façon très concrète. Mais c'est aussi quelque chose qui est spirituel. C'est un service à notre Dieu. Nous devons veiller non seulement sur la création qui nous environne, mais nous devons veiller aussi sur nos frères et nos sœurs en humanité. Sur l'alliance de notre Dieu, alliance à laquelle le Seigneur m'a fait entrer, dans laquelle il m'a fait entrer. Et nous avons à y veiller avec droiture et justice. Et dès lors. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 11 nous dit « Moi, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît, je connais le Père et je donne ma vie pour mes moutons. Jésus est le gardien. C'est celui qui nous garde. Nous l'avons chanté. Nous l'avons prié. Il est là à nos côtés. Si Dieu, si Jésus est notre, notre gardien, moi je suis aussi le gardien. Et je voudrais m'arrêter sur Genèse 26, 5, une promesse à Isaac, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai tous ces pays à ta descendance, toutes les nations de la terre te béniront par ta descendance, parce qu'Abraham m'a écouté, il a gardé mes ordonnances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Lorsque nous prenons soin d'eux, lorsque l'on garde les frères et les sœurs, lorsque nous faisons... Nous avons parlé de l'Église mondiale, universelle, tout à l'heure, mais nous avons aussi quelque chose à vivre dans le au sein de l'Église locale. Vous avez cette histoire que l'on raconte d'une Église qui était prospère, elle grandissait en nombre. Elle grandissait en nombre, elle grandissait en maturité. Et puis tout à coup, au fur et à mesure du temps, l'Église a commencé à stagner et puis à diminuer. Pourtant, dans cette Église, le pasteur n'avait pas changé, c'était le même pasteur. C'était la même prédication, c'était le même conseil d'anciens, c'était tout était exactement la même chose. Et pourtant, ça a diminué. Et on a réuni l'Église en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'Église diminue? Est-ce qu'il y a, à votre avis, une raison à cela? Et la raison, en fait, il n'y en avait pas. Rien de très fondamental. Et puis, dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais en fait, il n'y a rien qui change chez nous. La seule personne qui n'est plus là, c'est notre concierge. C'est la seule personne qui n'est plus là. Il est décédé. Ben, le concierge. Que fait le concierge? Et c'est alors qu'on s'est aperçu d'une chose. C'était que le concierge, qui époussetait les chaises, enfin c'était des bancs à l'époque, les bancs qui remettaient de l'ordre le lundi après le culte, il avait aussi une manie. Une manie. C'était la manie de dire, tiens, Mehdi s'assied sur cette chaise-là, je prie pour Mehdi. Tiens, Benoît s'assied sur cette chaise-là, je prie pour Benoît. Et à certains moments, il priait pour les uns et pour les autres, et puis, tout à coup, il disait, oui, mais attends, celui-là, il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu dimanche. Et le dimanche précédent non plus, que faisait-il ? Il prenait son téléphone et il téléphonait. « Tiens, comment vas-tu ? Je t'ai pas vu, il y a... » Et en fait, compte, chacun était quelque part porté au trône de la grâce par ce concierge. Et lorsqu'il était absent, eh ben, on lui faisait coucou, un petit signe, etc. Frères et sœurs, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une chose qui est extrêmement importante. Je suis étonné aujourd'hui. Bon, vous savez ou vous ne savez pas, mais il s'est passé des événements très importants à Madagascar ces derniers temps, le dernier mois d'octobre. Renversement de régime, président qui prend la poudre d'escampette, un autre régime militaire à la place, etc., 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 etc. Et j'ai pris contact avec les gens qui me reçoivent en général, qui nous reçoivent en général, quand nous allons, j'associe ma femme, à Madagascar. Et je disais à ma femme, c'est quand même étonnant le fait que tous, il n'y en a pas deux ou trois, hein, tous m'ont répondu à peu près la même chose. Ils commencent tous, on dirait que c'est un système, mais ils ont tous commencé par les mêmes phrases. Nous te remercions de prendre de nos nouvelles et il est bon pour nous de savoir que vous priez pour nous et notre pays. La communion fraternelle est quelque chose qui, me semble-t-il, est quelque chose qui est important et qui rentre dans notre travail. Prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres. Par peu de choses. Mais prendre soin les uns des autres. Que vous soyez le pasteur, l'ancien, le diacre, ou peu importe qui vous êtes, vous avez et vous êtes important pour l'Assemblée. Et il ne faudrait peut-être pas oublier ceux que l'on laisse de côté. Il ne faut peut-être pas simplement se fixer sur les cheveux blancs, ou ceux qui n'en ont plus. Mais il y a aussi des enfants. En général, les enfants, bon, ça n'en inquiète pas beaucoup. Eh bien, moi, je trouve qu'on devrait s'occuper aussi des enfants, parce qu'ils font aussi partie de l'Assemblée. Et aussi, ils sont précieux. Et donc, quelque part, nous devrions avoir un tissu relationnel, les uns avec les autres, qui fait que on prenne soin les uns et les autres. Cultiver est un service que je fais pour le Seigneur. Garder, c'est aussi un service, mais un service qui devient concret. Là, c'est être pour les uns et les autres. Et lorsque j'accomplis cela, eh ben, il y a une promesse, celle que nous donne Jésus. « Quant à moi, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, je termine. Il y a un adage qui dit « Tout travail mérite salaire ». C'est un adage bien connu. Moi, je préfère cette parole de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. « Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » Je ne sers pas le Seigneur pour recevoir, mais je sais que mon travail sera récompensé par lui. Je ne le fais pas dans ce but-là. Je le fais dans le but de tout pour sa gloire. Mais je sais aussi que le Seigneur est celui qui me récompensera. Donc, frères et sœurs, soyez gardés et bénis en Jésus. Je vous invite à nous unir. Seigneur, merci de ce que aujourd'hui tu nous as encore réveillés. Réveillés à la prière, réveillés à savoir que d'autres vivent des choses qui sont beaucoup plus désagréables que nous, Seigneur, et qu'ils sont dans l'impossibilité même de partager avec les uns et les autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous t'avons prié pour l'Église persécutée, nous t'avons prié pour l'Église dans les pays fermés. Seigneur, tu connais nos frères, nos sœurs qui sont là-bas. Seigneur, que nous ne les oublions pas. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour notre communauté. Nous voulons te prier pour notre communauté ici à Jumé, en te disant, Seigneur, nous avons besoin de relations les uns avec les autres, des relations plus fraternelle, plus existentielle, plus forte, plus resserrée. Seigneur, tout cela, pourquoi ? Parce que nous désirons vraiment que, à notre unité, les uns et les autres qui nous regardent puissent dire qu'en fait, compte, nous te servons. Nous voulons être un témoignage dans cette ville. Nous voulons être un témoignage là où nous sommes. Nous voulons être un témoignage dans notre foyer. Nous voulons être un témoignage dans notre lieu de travail. Nous voulons être un témoignage dans ce quartier de Jumé. Père, garde-nous dans ton amour. Fortifie-nous, Seigneur, visite-nous encore et que nous puissions avoir à cœur de te servir, toi, et de pouvoir être aussi ceux qui sont les gardiens de nos frères et de nos sœurs que tu nous as donnés, frères et sœurs aussi en humanité. Seigneur, que nous puissions être de ceux et celles qui se lèvent pour te servir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.